Rockkick.com. Le matin au www.rockkick.com. On s'attend pas.
De 9h à 1h, c'est Wake Up.
Wake Up. Avec Ismaël Trépanier. Et Jonathan Bouchard.
Allô?
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que je suis au Islamic Center of Québec?
Oui, c'est ça.
Mohamed, c'est ça. C'est, on m'a dit que c'était un chef de guerre. Il avait marié une fille qui s'appelait Aïcha, je pense. Elle avait 6 ans, c'est bien ça?
En tout cas, OK. Prochaine.
Quand on le questionne, c'est le Coran, là. Il se sauve en courant.
À partir d'une heure, les gars de Hard Sports prennent les commandes. Éric Veilleux et Christian Dallaire vous offrent via leurs collaborateurs invités le seul show de sport controversé à Québec.
On peut dire, Serge, que c'est allé trop loin vendredi.
Et quand ça tombe dans du cirque comme ça, parce que c'est dangereux, là. J'ai le nez noir, moi, je m'en dis, la prochaine fois, je prends mon bâton. Ça va finir comment, tout ça? C'est où que ça va aller, ça?
Et puis la musique, hein? Rien à voir avec les autres. Look out! Rockkick.com. Le matin, au www.rockkick.com. On s'attend pas. De 9h à 1h, c'est Wake Up. Wake Up. Avec Ismaël Trépanier. Et Jonathan Bouchard.
Allô?
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que je suis au Islamic Center of Québec?
Oui, c'est ça.
Mohamed, c'est ça. C'est, on m'a dit que c'était un chef de guerre. Il avait marié une fille qui s'appelait Aïcha, je pense. Elle avait 6 ans, c'est bien ça?
En tout cas, OK. Prochaine.
Quand on le questionne, c'est le Coran, là. Il se sauve en courant.
À partir d'une heure, les gars de Hard Sports prennent les commandes. Éric Veilleux et Christian Dallaire vous offrent via leurs collaborateurs invités le seul show de sport controversé à Québec.
On peut dire, Serge, que c'est allé trop loin vendredi.
Mais quand ça tombe dans du cirque comme ça, parce que c'est dangereux, là. J'ai le nez noir, moi, je m'en dis, la prochaine fois, je prends mon bâton. Ça va finir comment, tout ça? C'est où que ça va aller, ça?
Et puis la musique, hein? Rien à voir avec les autres. Look out! Rockkick.com.
Midi 14, vous êtes dans le show Wake Up avec Ismaël Trépanier. Jonathan Bouchard de quitterlequebec.com. On a eu peur, on a eu quelques frissons quand même, là, je dois vous l'avouer, cette semaine. Et même chose pour ce qui est de vendredi, Madame Delcambre qui annonce comme ça, bing, bang, paf, ça y est.
Ah ouais, c'est vrai.
Ouais. J'ai eu peur,
Ben là, non, ça va, je crois que c'est bon, maintenant. On lutte.
Tout à fait. Comment allez-vous?
Ah ben, je vais très bien et je voudrais revenir sur la décapitation justement que j'avais vu la vidéo sur la décapitation de l'Américain Eugene Armstrong et celle sur la lapidation. Et malgré ça, j'entends encore des musulmans me dire mais c'est pas ça le vrai islam. L'islam c'est paix, amour et tolérance. Hein. C'est vrai que ils se mentent tellement à eux-mêmes qu'ils finissent par être convaincus par leurs propres mensonges. Or, ils me disent, il y en a un sur le forum subversif.com, il est si sot qu'il dit ceci. Oh, mais attendez, l'orientalisme, c'est une chose sérieuse, vulgarisée et difficile, et il m'accuse de présenter une religion de sauvage. Attendez, je ne ferai pas de commentaire. Il dit, c'est la caricature débile d'un concombre, méthode concombre. Et alors, il y a quelqu'un sur notre forum qui s'appelle Namza, qui a dit, ah mais c'est bien Madame Concombre, c'est la dame qui fait de l'ombre au con. Et il faut dire que celui-là, il est plus que con, puisque cet imbécile me conseille de parler de la biographie de Ibn Hisham, à croire qu'il ne l'a jamais lu, parce que c'est ce que je fais, enfin, c'est-à-dire quand vous la lisez, d'ailleurs je vais le faire, il conseille également des vrais recueils d'avant la fin du XVIIIe siècle, comme si, en disant, mais attention, ce qu'elle présente, c'est le wahhabisme, mais attention, avant il y a eu 14 siècles qui étaient vraiment très très importants, non mais vraiment, malheureusement certains musulmans sont vraiment bêtes. parce qu'ils ne connaissent rien. Et là, je vais citer Ibn Hisham, qui a été traduit par Wahib Atallah, Paris Fayard 2004, et également ce Ibn Hisham n'a fait que transmettre la compilation de Ibn Ishaq, qui est un véritable auteur, qui lui est né en l'an 55 de l'Hégire, donc dans le premier siècle. Et je dis en arabe, Oqsimu billah, je jure par Dieu, mais que je meurs si je dis un mot qui ne soit pas la vérité. Je vais même leur citer ce qui est dit dans le Coran. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim rishawa wa lahum azabun azim. Parce que hum fi dalalin mubin. Ce qui est la traduction, je dis que Dieu a mis vraiment sur leur cœur et sur leur façon d'entendre et sur leurs yeux un vrai bandeau et ils auront un super châtiment. Parce que ils sont dans un égarement, ils ne veulent pas comprendre et pourtant je lis, je cite. Voilà, et j'ai parlé la semaine dernière, n'est-ce pas, de l'apostasie.
Oui.
Or, dans les hadiths d'Al-Bukhari, qui datent du 9e siècle, titre 86, chapitre 15, tome 4, page 382, écoutez bien ceci. Anas, compagnon de Mahomet, sallallahu alayhi wa sallam, je voyais, je suis respectueuse, a dit, un petit groupe de gens de la tribu de Hopl vint trouver le prophète et se convertit à l'islamisme. Comme ils avaient attrapé la dysenterie, à Médine, le prophète, qui était gentil, donna ordre de leur amener des chameaux provenant de la dîme, c'est-à-dire la zakat, c'est ce qu'on donne comme aumône, et de leur en faire boire l'urine et le lait. Parce que l'urine de chameau, c'est bon, de chamel.
Ah, c'est vrai?
Dès qu'ils furent rétablis, ces gens renièrent leur religion, tuèrent le berger et emmenèrent les chameaux. Alors là, on se mit à leur poursuite et on les ramena. Le prophète leur fit couper les mains et les pieds et crever les yeux. Puis on les laissa mourir sans cautériser leurs plaies.
Moi, Madame Delcambre, depuis que j'ai appris que Mohamed a marié une fille de 6 ans et qu'il a défleuré à 9 ans, je m'attends...
Non, mais attendez, moi, je vais vous revenir après là-dessus.
Oui, oui, tout à fait.
Mais le meurtre des apostats, je dis bien ceux qui étaient musulmans et qui ont laissé l'islam, est d'ailleurs ordonné par le Coran. Hein. C'est la sourate 4, verset 89, je ne l'avais pas cité la dernière fois, on m'en a fait la remarque, merci Père Samuel. 91 aussi pour une autre, dans un autre... notre, manuscrit, okay. Ils aimeraient que vous soyez mécréants comme eux pour être tous pareils.
Ah, okay.
Ne vous liez pas avec eux tant qu'ils n'ont pas émigré pour la cause de Dieu, mais s'ils apostasient, appréhendez-les et tuez-les où que vous les trouviez. Ne choisissez parmi eux ni amis ni auxiliaires. Et j'ai pris la traduction de Sir Hamza Boubaker, le père de l'actuel Dalil Boubaker, recteur de la mosquée de Paris, qui était agrégé d'arabe, qui était un grand juriste, alors que lui, le médecin actuel, il est un bon médecin, c'est tout. Alors, et voici ce qui est dit en arabe. Waddu lahu takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'an fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah fa in tawallaw fakhudhuhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum wa la tattakhidhu minhum waliyan wa la nasiran. Et ce verset est appuyé par le hadith qui dit Al-Bukhari, les traditions islamiques, titre 56,
oui.
Chapitre 149, tome 2, page 352, quiconque change pour un autre la vraie, pour une autre la vraie religion, qu'on le tue. Et alors je vais citer ce que dit Jean-Paul Roux, comme la couleur rousse, hein, Roux, R-O-U-X, il a fait paraître Les Ordres d'Allah aux éditions des Clés de Brouwer, la même édition que moi, page 15. Écoutez bien ce qu'il dit. C'est un monsieur qui a plus de 70 ans, connu dans le monde entier comme spécialiste du turc. Voici ce qu'il écrit. C'est pas moi, hein, c'est pas Concombre, c'est qui fait de l'ombre au con. Non,
oui.
Non, c'est lui, Jean-Paul Roux. Dérouté, inquiet, c'est page 15, hein, dérouté, au pluriel, inquiet, nous avons inventé pour nous rassurer, pour essayer de comprendre, deux islams, l'un éclairé, ouvert, pacifique, etc., l'autre fanatique, guerrier, que l'on qualifie d'intégriste ou d'islamiste, il continue, ce qui ne veut absolument rien dire, l'un authentique, le vrai, le premier, l'autre malade, le second, et il continue, il n'en est qu'un. Et il n'a pas deux visages, mais un seul, à facettes multiples, le mystique et le terroriste. et tous ceux qui se situent entre ces deux extrêmes ont toujours coexisté et s'abreuvent aux mêmes sources, le Coran et la personne de Mahomet. Et c'est pour ça qu'aucun musulman, aucun, vous m'entendez, n'avouera que le Coran et le prophète, eh bien, dans le fond de son cœur, on ne touche pas. Alors, il ment aux Occidentaux. Et moi, ce que je reproche à cette attitude, c'est que d'un côté, il y a les hypocrites, Al-Mouna Firkoun, ceux qui disent « Oh oui, oui, on pense comme vous, les Occidentaux. Vous savez, l'islam, c'est presque comme le christianisme, vous savez, c'est pareil, trois religions du livre, trois religions monothéistes. » Et puis il y a les autres, ceux qualifiés d'islamistes, qui prennent toutes les carottes, si je puis dire, et quand Hani Ramadan perd sa situation, parce qu'il y en a d'autres hypocrites qui, au contraire, s'engraissent en ayant des situations de premier plan. Et moi, je n'aime pas l'injustice. Donc je reviens au Coran. Le Coran dit ceci, et c'est pour cela que celui qui, sur la vidéo, va couper le cou, je vais vous expliquer pourquoi cet homme, ce n'est pas que je le justifie, loin de là, mais il ne fait qu'imiter servilement, directement, implacablement, son beau modèle. Regardez ce qui est dit dans le Coran. Vous avez dans l'apôtre d'Allah un bel exemple pour quiconque espère en Allah et au dernier jour et invoque Allah fréquemment. C'est la sourate 33, verset 21. « Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana liman kana yarjullah wal yawmal akhira wa zakarallaha kathiran. » Et il y a également dans la sourate 4, verset 80, « Ceux qui obéissent au prophète obéissent à Dieu. Man yuti'i rasulah. » Alors vous comprenez pourquoi, et je vais vous citer, je vais prendre dans cette fameuse biographie du prophète, le meurtre d'Abu Azza et de Muawiya al-Mughira, page 68. Abu Azza avait été fait prisonnier à Badr, c'est une victoire, hein, puis libéré. Il fut rattrapé et il dit à l'envoyé d'Allah, pardonne-moi, pardonne-moi. Et l'envoyé d'Allah répondit, ah non, pas cette fois. Par Dieu, tu ne frotteras plus tes deux joues à la Mecque et tu ne diras plus, ah ah, j'ai trompé Mahomet deux fois. Coupe son cou, ô Zubayr. Et Al-Zubayr coupa le cou d'Abu Azza. Mais il y a quelque chose, un must, que personne ne veut lire et qui est dans toutes les biographies. C'est le massacre de la troisième tribu juive qui était à Médine avec le prophète, le massacre des Banu Qurayza. Voyez, ils avaient plus ou moins fricoté avec les ennemis du prophète, c'est vrai, avec les Mécois. Mais voici le sort qui leur fut réservé.
Okay.
Voici ce que dit Ibn Ishaq. On les fit descendre, ils avaient été enfermés dans le quartier de Bint al-Harith, c'est-à-dire la fille d'al-Harith, à Médine. L'envoyé d'Allah alla sur le marché de Médine et fit creuser des fossés. Il les fit venir. On les fit venir par groupe. Ils étaient au nombre de 600 ou de 700. Certains disent 800 et 900. On leur coupa le cou. Et dans Ibn Hisham, page 277, puis il fit venir les Banu Qurayza, ce sont les juifs de cette tribu, par petits groupes, et leur coupa la gorge sur le bord du fossé. Le prophète ne cessa de les égorger jusqu'à leur extermination totale. Et Aïcha, que vous aimez beaucoup, la petite...
Voilà. Ben oui, je l'aime, Aïcha, moi.
Oui, vous allez voir, mais ne soyez pas jaloux.
Mais je couche pas avec, par contre.
On ne tua de leur femme qu'une seule femme. Ah. C'est bien. Elle était chez moi. C'est une juive, dont elle parle. Elle parlait avec moi et riait tout son cœur, pendant que l'envoyé d'Allah fit tuer les hommes de sa communauté dans le marché. Telle qui parle, hein. Soudain, un crieur cria le nom de la femme, disant, « Où est une telle ?» Alors elle répondit, « C'est moi. » Je lui dis, « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle répondit, « On va me tuer. » Mais pourquoi, lui dis-je, à cause d'un acte que j'ai accompli.
Ah.
On l'a pris et on lui coupa le cou. Et Aïcha est étonnée de son cas. Elle dit ceci parce qu'elle est très, très sensible, Aïcha. Je n'oublierai jamais la sérénité de son âme et la fréquence de son rire, tout en sachant qu'elle allait être tuée. Et Ibn Hisham dit, c'est elle, vous savez pourquoi elle a été tuée? Elle avait jeté un moulin. Oui. Sur Khalad, vous savez, un moulin, une sorte de là pour faire, pour moudre, sur Khalad ibn Suwaid. Mais il y avait quelque chose encore plus touchant. Il y avait un juif, Al-Zubayr, qui avait rendu un service à un arabe, qui était des compagnons de Mahomet. Et vous savez, un bienfait, il faut dire la vérité, dans un monde bédouin, ça ne s'oublie jamais. Alors l'arabe s'invite à là auprès de Mahomet, il lui dit, fais-moi don de son sang. Il m'a sauvé un jour, il est à toi, dit le prophète.
Okay.
Et alors Al-Zubayr, le juif, dit alors, « Mais où est Karb ibn Assad ?» Et l'arabe Sabit répondit, « Il est tué. » Et un tel, il est tué. Et un tel, il est tué. Alors Zoubeir, le vieux juif, dit alors, « Oh, Stabit, je te prie de me faire rejoindre ces gens, car la vie n'a plus pour moi de sens. Je ne peux plus patienter jusqu'à ce que je rencontre mes bien-aimés. » Alors on lui coupa le cou. Et quand on rapporta les paroles du juif à Boubacar, il dit ceci, « Je rencontre mes bien-aimés. Hein, par Dieu, il les rencontrera dans le feu de la Géhenne, où il restera éternellement, c'est-à-dire dans le feu de l'enfer, Jahannam. » Et Ibn Ishaq dit, « L'envoyé de Dieu ordonna de tuer tout adulte parmi les Banu Qurayza, c'est-à-dire la tribu juive. » Mais attendez, ce n'est pas fini. Puis il y eut le partage du butin, page 196. « L'envoyé d'Allah fit le partage des biens des Banu Qurayza, de leurs femmes et de leurs enfants, entre les musulmans. » Le cavalier avait trois parts, deux pour le cheval et une pour le cavalier. Et le combattant à pied n'avait qu'une seule part. Puis l'envoyé d'Allah envoya Sa'd ben Zaïd al-Ansari à Nejd, vous savez c'est le cœur de l'Arabie, avec des femmes captives pour les vendre et acheter en échange des chevaux et des armes. L'envoyé d'Allah avait choisi pour lui-même, parmi leurs femmes, parmi les juives, Rayhana. Elle voulut rester sa concubine et refusa le mariage. Vous avez dans l'envoyé d'Allah un bel exemple. Et même dans le Coran, sourate 33, on parle de ce carnage de la troisième tribu. Il est dit, une partie d'entre eux a été tuée par vous, une autre réduite en captivité. Fariqan yaqtuluna wa ta'siruna fariqan. Mais il y a autre chose. Après avoir massacré cette tribu juive, c'était la troisième, les deux autres avaient été en quelque sorte chassées parce que on était intervenu. Vous savez, c'est ces systèmes d'alliance en Arabie. Ils s'étaient réfugiés, les pauvres, dans une palmeraie qu'on appelle Khaybar, K-H-A-Y-B-A-R. Et alors, et on ne va pas les laisser tranquilles. Ce n'est pas forcément la faute du prophète. Vous savez ce que dit Ibn Hisham ? Le slogan des partisans de l'envoyé d'Allah durant la campagne de Khaybar, c'était « Oh victorieux, tu !» Vous savez, des vrais excités. Moi, je pense que le prophète était le moins. C'était des fous. Et voilà comment le récit de la campagne de Khaybar.
Mais là, Madame Delcamb, là...
Oui, je peux continuer comme ça des heures, hein ?
Oui, je
sais.
Vous
savez qu'est-ce qui s'est passé, ce qu'il a fait à la Khaybar ?
Allez-y.
Il a demandé au chef juif Kinana, Ben Arabiya, chez qui se trouvait le trésor des
oui.
Juifs. Il lui a demandé où était le trésor. L'autre ne voulait pas le dire. Il lui a dit, à ce moment-là, il a dit, si je trouve le trésor, est-ce que tu permettras que je te tue ? Kinana a dit, oui, comme ça. Et alors, l'envoyé d'Allah a trouvé une partie du trésor. Il a continué, il a ordonné à Zoubeir Ben Al-Awam de le torturer jusqu'à ce qu'on puisse faire sortir ce qu'il y avait en lui. Al-Zoubeir se mit à faire brûler sur sa poitrine jusqu'à ce que Kinana fût sur le point de mourir. Puis l'envoyé de Dieu le livra à Muhammad ben Maslama. Celui-ci coupa son cou en vengeance de son frère Mahmoud ben Maslama. Et celui qui traduit ça, c'est Baydawi qui est vraiment... Badawi, qui est vraiment un musulman qui dit à chaque fois qu'il met le nom du prophète, Muhammad il dit sallallahu alayhi wa sallam. Mais il a fait mieux le prophète. Il y avait Safiya, l'épouse de ce Kinana qu'il avait torturé et fait tuer. Elle était avec une autre captive.
Hein?
Le prophète ordonna de s'approcher et jeta son manteau sur elle. Alors les musulmans surent que l'envoyé d'Allah l'avait choisi pour lui-même. Et sur le chemin du retour, il n'a même pas attendu d'être arrivé à la Mecque. Il a consommé le mariage. Il a couché avec elle sous une coupole. Et il y avait un homme qui s'appelle Abu Ayyub Khalid Ben Zaid. Et lui, il a veillé dehors toute la nuit. Et le matin, quand le prophète a eu couché avec Safiya, la femme de Kinana, il a dit, tiens, mais qu'est-ce que tu fais là, toi, être là près de... Et Abu Ayyub, et il dit, écoutez bien ce qu'il a dit, ce bédouin, c'est une femme dont tu as tué le père, le
macho.
Mari et son peuple. C'est pourquoi je craignais pour toi. Je la craignais pour toi. C'est-à-dire qu'il a dit, elle aurait pu le tuer. Après tout, avoir fait tuer le père, le mari et le peuple... c'est-à-dire ceux qui se trouvaient à Khaybar, c'est-à-dire que, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que celui qui fait... Bon, le prophète, moi je dis, c'est à son époque, c'est au 7e siècle, dans des coutumes où celui qui ne tuait pas était lui-même tué. Mais ce qui est grave, vous avez dans mon envoyé un beau modèle, en ayant dans le Coran que ce qui est dit, le prophète, c'est Dieu qui le dit, eh bien, vous ne vous étonnerez pas que dans cette vidéo, je vois reproduit celui qui coupe la tête, comme on pouvait le faire au 7e siècle, et qui est sûr, en faisant ça, de satisfaire son prophète et le Coran. C'est ça qui, pour moi, est grave. Quand j'ai vu ces femmes, la femme lapidée, cette lapidation, avec exactement, en prenant des pierres pas trop grosses, parce que ça les tuerait d'un coup, pas trop petites, parce que c'est pas ça, que le sang coule, que les chairs éclatent, je me dis, mais attendez, c'est la parole éternelle de Dieu et ça continue. Et on ne peut pas ne pas le dire. On est obligé de dire à celui de forumsubversif.com, vous êtes un criminel parce que c'est non-assistance à non-musulmans en danger. Enfin, je ne sais pas si je me fais bien comprendre.
Oui. Mais Madame Delcam, oui. Madame Delcam,
oui,
là,
je vous en prie.
Moi, je me fais l'avocat du diable.
Oui, je vous en prie.
Mais comment pouvez-vous la critiquer, l'islam? Oui, vous parlez, bon, d'accord, l'arabe, mais il en reste pas moins que vous n'êtes pas arabe. Comment faites-vous pour être en connaissance de cause et critiquer vertement ce livre extraordinaire, La Bonne Parole?
Alors, je vais vous dire, cher Ismaël, qui portait un nom béni parmi tous les Arabes de la Terre. je me permets de le critiquer parce que
oui.
j'enseigne l'arabe, c'est mon job. Ah. Plus de temps que ne le fera jamais tous les Arabes qui s'affirment arabes sans forcément... Moi, mon domaine, c'est l'arabe littéraire et mon sujet d'étude, c'est le droit musulman. Donc, je vis avec les textes. Je dois dire que je me masturbe avec ces textes, si je voulais être vulgaire.
Oh, j'aimerais bien voir cela. Non, mais quand même, là, on va se garder une petite gêne.
Non, mais pour dire que... Non, mais...
Oui.
Non, rassurez-vous, je pratique le coitus interruptus, je vais pas jusqu'au bout.
Ah, ok, d'accord.
Mais le problème, c'est que... Le problème, les gens qui sont ici, les Arabes occidentalisés,
oui.
sont un peu comme moi vis-à-vis du droit canonique, c'est-à-dire qu'ils le voient idéalisé, je ne leur jette pas la pierre, parce que, à la limite, ils se disent, bah, après tout, une religion, ça équivaut, toutes les religions sont un peu semblables, et s'il y a un prophète, ils sont tellement occidentalisés qu'ils n'arrivent pas à voir que ces textes-là leur explosent autant au visage que ça nous explose à nous, attention, hein.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y a des musulmans modérés, mais qui ne connaissent pas leurs textes, et qui, s'ils les connaissaient... Il y a un élève qui m'a quand même dit, mais attendez, qu'est-ce que vous visez là, madame? Vous voulez faire de nous des apostats? Et c'est vrai que c'est un énorme problème, parce que regardez, imaginez que moi je sois dans un pays où on me dise, soit tu reconnais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, ou tu vas sur le bûcher. Ah, alors là, hein, ah, voilà. Et c'est là où je dis qu'une religion qui se permet de dire je détiens la vérité, moi je dis
problème.
Je suis contre. Vraiment, franchement, je suis contre.
Oui,
je dis, c'est la laïcité qui a en quelque sorte libéré les esprits. Mais quand j'ai regardé le film de Youssef Chahine Al-Massir, que je vois que quelqu'un pour avoir en quelque sorte vis-à-vis de l'Église. Consulté, enfin, était hérétique, considéré comme hérétique, et est en train de brûler. Alors, la différence avec l'islam, c'est que si on revient au texte de l'évangile, j'ai beau chercher, je ne vois pas Jésus-Christ conduire des expéditions, mettre des captifs de guerre dans son lit et lapider la femme adultère. Si l'Église
Mais Madame Delcambre,
elle a dérapé. Vous voyez, elle a dérapé.
Tout à fait. Mais Madame Delcambre,
oui,
est-ce que vous croyez que seuls les fous ne changent pas d'idée?
Alors moi je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous étonner.
Oui, allez-y.
En partant de textes extraordinairement doux,
oui.
Le catholicisme a dérapé comme il n'est pas permis, avec une inquisition affolante.
Oui.
Eh bien je dis qu'en partant de textes extrêmement violents, pourquoi l'islam ne déraperait pas aussi en arrivant à quelque chose de relativement... C'est ce qui s'est passé pour l'Agacan. L'Agacan est le successeur de la secte des assassins. Vous savez, bon, maintenant, qu'est-ce qu'il fait, l'Aga Khan? Il court, il va à Auteuil, fait courir ses chevaux et habite l'île Saint-Louis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que
oui.
Tout est possible. Vous pouvez partir d'une situation, c'est-à-dire tout dépend de la circonstance, de la partie de bras de fer que nous menons, parce que moi, je crois vraiment qu'il y a autant de gens intelligents dans toutes les traditions. Vous voyez, il n'y a pas plus d'idiots, mais il faut les mettre en disant, attention, vous avez cela dans votre tradition, surtout attention. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
Il y a et c'est très important parce que on agit sur l'inconscient collectif. Et quand vous prenez les gens et entre quatre yeux et vous leur dites, attention, est-ce que ça, cette vidéo là que vous voyez, qui est en quelque sorte le type qui a ça, il a dans l'esprit tout son prophète, etc. Et est-ce que vous accepteriez ça? Moi, vous savez ce que j'ai dit à un élève qui m'a dit, oui, j'ai vu sur Rocky.com, c'est affreux, vous allez empêcher les musulmans d'aller au Canada, etc. J'ai dit, écoutez, jeune homme, je n'ai jamais... Il m'a dit, vous n'avez pas dit qui vous étiez, je ne savais pas que vous étiez célèbre. Je lui ai dit, j'ai pratiqué la tafia. La tafia. Non, le problème, c'est que je dis personnellement qu'il faut, on n'a pas à montrer ce que l'on pense en classe ou à la fac ou n'importe où.
C'est en plein ça.
Mais c'est vrai que de plus en plus, on a le devoir de dire de ne pas cacher les textes.
Mais ça, j'espère bien, franchement. C'est justement un principe, mon Dieu, mais qui est tellement simple à comprendre. Si
ben
justement
oui.
On se cache constamment et qu'on n'avoue pas quelque chose, qu'est-ce qui va arriver? Ben probablement qu'il va y avoir tellement un gros trouble de conscience que la personne va en venir au suicide. Ce sera un suicide collectif d'une certaine façon.
Mais oui, parce que regardez, ce monsieur, ce Khalil, ce Libanéchi, dit
oui.
Il faut cacher, de façon à ce que les non. musulmans, bon, tant qu'on cache, c'est faux. Moi, personnellement, je veux dire une chose, il ne faut pas cacher.
Non.
Il faut dire la vérité. Vous savez...
C'est une libération? C'est aussi simple que ça.
Mais bien sûr, parce qu'à ce moment-là, celui qui est mis en face de ces textes, c'est là où on verra les hypocrites et ceux qui sont vraiment les gens éclairés. Ils doivent se déterminer face à des textes de ce type. S'ils sont pas d'accord, qu'ils prennent et qu'ils disent c'est inapplicable au nom de ou alors qu'ils ne viennent pas ici nous en quelque sorte faire une sorte de subversion. Parce qu'attention, le problème, c'est ce que je dis, vous savez que vous avez entendu parler de l'affaire de la mosquée de Tournon-sur-Saône.
Oui.
Qui est arrivé au site de France Écho.
Oui, tout à fait.
Moi, je tiens quand même à les défendre, parce qu'ils ont le courage d'avertir en disant, attention, vous laissez une mosquée, voilà, je vais vous dire en 5 minutes, l'affaire de la mosquée de Tournon-sur-Saône, c'est une ville dans l'Ardèche, c'est une région de province, de 11 000 habitants, et le maire, un radical de gauche, a voté pour qu'il y ait une mosquée pour 600 pratiquants de la ville, 600 musulmans. Et qui a vendu le terrain? C'est l'évêché. Il faut dire que ces cons de curés sont vraiment bêtes. Hein. Il a vendu un terrain à la ville à un prix défiant toute concurrence. Bon, si vous voulez, jusque-là, ça serait nickel. Seulement le problème, c'est que ce qu'a voulu faire le site de France Écho, c'est s'opposer à l'expansion d'une religion dont la nature, si elle n'est pas contrariée, est liberticide. Alors, est-ce que c'est vraiment une raison pour que le journal Libération, oh là là, le journal Libération fait du contestataire un facho, un nazillon, il traite le site France Écho de tous les noms. Et je dis, depuis quand le journal Libération, qui compte parmi ses lecteurs des bouffeurs de curés, depuis quand il encourage la pratique religieuse musulmane?
Mais moi,
Madame
Delcam, je l'ai déjà fait savoir à Maurice Jugentec lors d'un de nos entretiens, que le jour où ce que je sens que ma vie est menacée, ou ce que la vie de ma famille est menacée...
Non, je vous défends, Ismaël. Oui, elle sera jamais menacée, jamais. Je vais vous dire pourquoi, parce que...
Madame Delcambre, je vais y aller, moi, au front.
Non,
regardez, des dommages, je vais en faire.
Non,
et ça, je vous assure.
Vous avez un nom. Jamais ils ne pourront s'attaquer au fils d'Abraham.
Je le sais.
C'est
pour ça que je suis dangereux.
Voilà, en plus, vous faites semblant, comme ça, de taper, de botter les culs de derrière. Mais c'est ce que j'ai dit à cet élève. Il m'a dit, ouais, mais l'animateur, il est raciste. Je dis, pas du tout. C'est un style canadien. J'ai dit, quand vous voulez. J'ai dit devant tous les élèves réunis. J'ai dit, je regrette. Devant vous tous, je dis. Moi, je n'ai jamais rencontré des dieux, je n'ai rencontré que des hommes. Et je préfère monter au créneau pour défendre, peut-être que demain, grâce à moi, une fille se sentira plus libre, elle ne sera pas lardée de coups de couteau, comme certaines l'ont été par un père complètement débile qui voulait suivre le Coran et le prophète d'une manière totalement servile. Et les élèves m'ont regardé absolument ahuri. Non, je crois qu'il faut le dire. Ce que vous faites, Ismaël, par rapport à vos médias du Canada lâches et hypocrites, c'est d'avertir les gens. Il ne s'agit pas d'inciter à la haine. Il s'agit de prévenir qu'il pourrait se passer. Vous savez, Théo Van Gogh, s'il avait su qu'en disant la vérité, il risquait d'être assassiné, il aurait peut-être mis quelques bémols. C'est ce que je dis, moi.
Ouais.
Il y a aussi une façon de présenter les choses pour éviter l'irréparable. Moi, je me fie aux textes. Je ne cite que les textes. Je cite les textes, et dans ce que j'ai cité, c'est dans les éditions Al-Bouraq, au Liban, c'est-à-dire c'est la version que consulte le musulman pratiquant. Et dans la traduction du Coran, je prends des traductions du Coran faites par des musulmans, jamais des traductions faites par des orientalistes. Et quand je vous cite quelque chose, je ne cite pas mes propres ouvrages, les ouvrages de Concombre, celle qui fait de l'ombre au con, mais non, non, je cite
ouais, je les ai, Forum Subversif, c'est genre, c'est Forum Subversif, attendez un instant, c'est pas ça que j'ai traité cette semaine de quotient intellectuel inférieur à des prix.
Ah, ça m'a vraiment fait plaisir. Ça m'a vraiment, je me suis dit, il est trop sympa, je vais lui montrer en ce qui concerne l'arabe tous les textes que l'on peut faire. Oui, en plus, attendez, le conte de Subversif, il dit, attention, hein, pour faire de la vulgarisation, on la fait pas n'importe comment. J'ai dit, et alors, espèce de con, comment je la fais, moi? Je la fais peut-être aussi de... Non, vous voyez, c'est-à-dire, c'est, on arrête, on ne dit rien, on met une grosse couche de doré sur notre civilisation, et les Français ne sont, et les Canadiens sont pas des cons, ils sont capables de juger. Non, on cache pas ce qui s'est passé, on cache pas l'Inquisition, on cache pas tout ce qui se passe, eux, ils cachent. Et je dis, arrêtez de cacher, que vous l'appelez Taqiya comme chez les chiites,
madame,
que vous l'appelez Kitman, oui.
Madame Delcambre,
oui,
je suis tellement raciste, je veux pas non plus vous démontrer mes performances sexuelles, en aucun temps je veux faire ça, mais j'ai quand même sorti avec deux femmes qui sont de race haïtienne, d'accord?
Ah, ça, c'est beau.
Dominicaine aussi, une Dominicaine. J'ai sorti avec une Cambodgienne et j'ai sorti aussi avec une musulmane.
C'est bien.
Ça tombe mal, hein? Alors, non, mais c'est pour répondre d'une certaine façon à cet étudiant qui croit que je suis raciste. Oh, j'avais vraiment le goût d'être raciste bien à fond et de pouvoir tremper ma louche dans le potager.
Voilà. Voilà. Et je dis à cet élève qui s'appelle Khalil, libanais chiite,
oui.
Dit, c'est pas vrai du tout, Ismaël Trépanier, parce que tout le monde va vous écouter maintenant,
oui.
Évidemment, quelle promotion, c'est pas vrai du tout que vous soyez raciste, mais c'est la seule radio libre, et c'est vrai, il dit, vous comprenez, vous avez dit que les chrétiens étaient des crétins, je dis, les religions,
oui, oui.
Je suis agnostique, il allait bientôt défendre les chrétiens, parce que, pour lui, dans sa culture, on ne critique aucune religion. Eh bien, je regrette, très cher élève, dans la culture occidentale, on a le droit, et c'est un acquis qui a coûté suffisamment cher à des gens qui ont été brûlés justement sur les bûchers pour avoir cette liberté, j'estime qu'en Occident, on ne brûle plus les sorcières, on ne brûle plus les athées, on ne brûle plus les juifs, on ne brûle plus... Heureusement,
oui.
On est sorti de là. Et le petit chevalier de là-bas, qui avait 18 ans, et qui pourra s'être moqué du Christ à brûler, ben j'ai dit, je m'excuse. On est sorti quand même de cette époque-là.
J'ai un truc à vous demander, Madame Delcambre. Est-ce que, je ne sais pas si vous allez être d'accord sur ce point, que c'est la religion, parce que j'en parlais cette semaine avec mon co-animateur Jonathan Bouchard, sur le fait que, exemple, moi, les chrétiens m'appellent athée.
Oh, ben de quel droit?
Ouais, mais ils disent que je suis un athée, que je ne crois pas en rien. Est-ce que...
Pour moi, vous croyez en rien montre que vous êtes un philosophe, vraiment, pour moi, c'est vraiment un esprit ouvert.
Merci. Mais le point est le suivant. Il me semble que ce mot a été prédestiné par ces gens pour définir quelqu'un qui ne croyait en rien. C'est d'accord? Ça vient de la religion, je me trompe? Ce mot-là, ce mot de vocabulaire.
C'est un jugement que vous ne devriez jamais laisser porter.
Justement, à la base, moi, Madame Delcambre, comme vous, et je le souhaite énormément, vous êtes un être humain.
Ah, mais moi, c'est ça. La religion de l'homme. Vous savez qu'il y a un Libanais qui s'appelle Joubran Khalil Joubran, qui a parlé, justement, de cette religion de l'homme, à savoir, il parle d'un prophète qui n'est pas le prophète de l'islam, ni un prophète religieux, et qui dit ce qui est important, c'est l'homme. C'est l'homme avec un grand H.
L'homme et la femme, oui, tout à fait.
Celui qui ne fait pas de mal à son prochain, celui qui est capable de voir que le plus petit doit être traité comme
oui.
Le plus grand. Moi, je trouve que c'est magnifique
exact.
De redonner à l'humanité sa valeur et ne pas humilier l'homme et de dire il n'a rien, écrasons-le et offrons-le. Vous savez, et offrons-le en sacrifice aux dieux. Je repense à Armstrong, Eugène Armstrong, qui est là tout tremblant. Dans sa tunique
ouais.
Un peu orange, et l'autre va lui découper la tête avec un couteau. Mais, et après prendre la tête et la poser bien en évidence, refaisant là un geste qui existait en Arabie, mais en Arabie c'était au 7e siècle, vous voyez. Et qu'est-ce qu'il avait fait cet homme-là? J'ai vu dans une biographie que vous avez mis sur votre site, qu'est-ce qu'il avait fait? Il travaillait au service d'une société, mais pourquoi?
Ouais.
Pourquoi? J'ai dit, et je crois qu'on a fait pareil pour un des otages qui avait été également enlevé, on a fait la même chose.
Le Britannique, ouais.
Oui, et c'était ce qui avait tellement bouleversé Bernard-Henri Lévy pour ce qui avait été fait. Vous voyez, c'est ça qui est grave, de dire l'Occident n'accepte pas ça. Et vous traînez, et vous allez traîner devant les tribunaux le site de France Éco ou Philippe de Villiers, tout simplement parce qu'ils ont dit qu'il y avait une islamisation progressive ou parce qu'on a dit un tout petit peu, attention, l'islam peut être liberticide. Alors que eux, il y a des têtes coupées, il y a des gens massacrés, il y a des gens qui explosent, et l'élève me dit, vous vous appelez l'imam bombe, c'est grave. Et alors ceux qui font exploser des bombes, est-ce que c'est pas plus grave que le fait d'avoir le pseudo imam bombe sur un site LibertyVox? Attendez là, ils ont perdu toute proportion, enfin c'est-à-dire, ils marchent sur la tête. L'Occident a le droit de se défendre, je m'excuse.
Non, c'est pourquoi vous vous excusez, madame Nelka?
Non, c'est vrai, je ne m'excuse pas.
Vous avez le droit de dire ce que vous avez envie sur mes ondes.
Voilà, et ça c'est fantastique, parce que je puis vous assurer qu'on n'a pas la
c'est
possibilité
de
le faire en France.
Voilà, c'est de l'opinion. Je suis assez écœuré, mais vraiment écœuré, là, au point là, d'en être agressif, là. D'entendre des putains de sales, et c'est comme ça que j'appelle ça, arriver et essayer d'étiqueter chaque propos de chaque personne, mot de vocabulaire par mot de vocabulaire, pour être certain de bien ranger dans un coin une personne qui ne pense pas comme cette personne. La calice de tabarnak de pensée unique. J'en ai mon voyage. Je suis tanné.
Vous avez tout à fait raison, parce qu'il y a un autre moyen qu'ils ont pris.
Ah.
Ils ne tuent plus, mais ils tuent financièrement.
Et voilà, avec la cour, les avocats, etc.
Exactement. Ils arrivent à demander parfois des amendes telles que la personne ne se relève pas. C'est une mort civile. C'est une mort financière.
Comme le Western Standard.
Et voilà.
Enfin,
voilà.
Ils essaient de le faire.
Ils essaient de le faire. Et je crois que à partir du moment, moi, et je le fais aussi en pensant à cela, à partir du moment où l'on met sur les ondes qu'il n'a pas de raison, que lorsque ces caricatures ont été faites, les caricatures s'appuient toujours sur un fond de vérité, et que là c'était même pas une caricature, parce que ça n'a fait en quelque sorte que de dessiner la réalité, de celle que les livres musulmans eux-mêmes veulent inculquer à leurs disciples, et qu'il y a des putains d'hypocrites qui essayent de cacher cela. Eh bien, je dis que c'est à cause d'eux qu'il y a des gens qui vont payer des amendes énormes, parce qu'on dira, comment vous avez calomnié? Moi, quand je suis allée défendre Louis Chagnon devant le recteur qui n'en revenait pas, mais j'ai dit, monsieur le recteur, monsieur Chagnon n'a pas commis de faute, il n'a pas commis d'erreur,
je suis tout à fait d'accord.
Il n'a pas été un mauvais historien, il n'a fait que dire ce qui est écrit dans tous les textes.
Il y a une seule chose. Le jour qu'ils vont m'enlever tout cet argent que j'ai, le peu que j'ai trimé dur,
mais non.
Ils m'enlèveront pas mes 2 points. C'est clair? C'est comme
mais
ça.
Mais vous n'aurez rien du tout. Voyez, je suis absolument contre. Écoutez, je vais vous dire pour vous rassurer, Ismaël, ça fait plus de... J'ai fait paraître le premier Mahomet illustré chez Gallimard. Ça fait 20 ans. Et j'ai fait après un Mahomet chez DDB avec la représentation avec un turban. Je n'ai jamais eu une seule insulte. La seule insulte qui m'est venue, c'est d'un trépané du cerveau complètement siphonné du citron à Roubaix. Mais vous voyez, ces menaces de mort stupides. Mais sinon, jamais. Parce que quand vous dites, quand vous suivez les textes, quand vous appuyez sur les textes, et quand on voit que votre ligne, c'est vraiment d'informer et de vous défendre, Ismaël, avec surtout le prénom que vous avez, il faut un grand respect pour le fils Abraham.
Merci beaucoup, madame Delcam.
Ah,
j'aimerais vous rappeler la semaine prochaine, c'est possible?
Bien sûr.
Ouais,
on continue la collaboration, puisque maintenant il n'y a plus de danger sur. Moi, de toute façon, l'ami avocat à qui j'ai téléphoné m'a dit, il ne risque rien, rien du tout. Suivez les textes, n'attaquez pas les hommes comme vous l'avez fait, et puis ça va.
Merci,
sauf
madame Delcam.
Subversif.com.
Je vous embrasse. Je vous embrasse très fort sur les deux joues. Écoutez. Bonne nuit, parce qu'il est quelle heure chez vous déjà?
Il est 18h47.
Oh, il est pas si tard. Bon, bon souper là-bas.
Voilà, c'est ça.
Alors, bon. À vendredi la semaine prochaine et portez-vous bien d'ici là.
Aucun problème.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Toujours un plaisir.
Au revoir.
Au revoir. Alors, c'était Anne-Marie Delcambre. Bien entendu, on passe en rafale tout de suite la publicité. On revient tout de suite, Johnny.
Pour émettre un commentaire ou joindre les animateurs en ondes, c'est simple.
Allô? Allô?
Ouais. Je pense que ça irait plus vite par MSN. Live@rockkick.com, la meilleure façon de nous joindre en tout temps.